Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du Cantique des Cantiques, avec l'aide du pasteur Louis Pernot. Le Cantique des Cantiques, c'est un petit livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un chant d'amour. Mais comment l'interpréter ? Est-ce vraiment les futurs époux qui essayent de se retrouver ? Est-ce que ça représente autre chose ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour commencer, je vais vous lire au chapitre 2, les versets 8 à 16. « J'entends mon chéri. Le voici, il vient. Sautant par-dessus les monts, bondissant par-dessus les collines, mon chéri est comparable à une gazelle ou à un faon de biche. Le voici, il s'arrête derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon chéri chante et me dit « Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va. On voit des fleurs dans le pays. La saison de la chanson arrive et on entend dans notre pays la voix de la tourterelle. Le figuier mûrit son fruit vert et les ceps en bouton donnent leur senteur. Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. Saisissez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes alors que notre vigne est en bouton. Mon chéri est à moi et je suis à lui qui paît parmi les lys. »
Et la deuxième lecture qui viendra éclairer la première se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 27 à 30. Et c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Jean-Baptiste leur fit cette réponse. « Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse et l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. »
Est souvent lu lors des mariages. Vous avez certainement dû en entendre plusieurs passages. Sans doute que les futurs époux y voient simplement un chant d'amour. Ils y trouvent une belle expression de l'amour qu'ils vivent. Le bien-aimé qui court à la rencontre de sa belle, qui, elle, a une voix douce, un visage charmant, et le tout dans de jolies images poétiques et bucoliques, d'arbres en fleurs, de tourterelles et de bons parfums. Mais ce livre biblique parle-t-il de cela ? Rien n'est moins sûr. Certains disent même que non, qu'il s'agit juste d'une parabole, d'un texte allégorique parlant de tout autre chose, de Dieu, de l'homme et de leur relation mutuelle. On a fait depuis toujours des lectures symboliques du Cantique des Cantiques en disant que cette relation d'amour est prise pour image de la relation entre l'homme et Dieu. Dieu est représenté par l'époux et l'humain par la bien-aimée. Ainsi, nous voyons ce que Dieu aime chez l'homme et ce que l'homme peut attendre de Dieu, et nous pouvons aussi comprendre comment peut se faire cette quête mutuelle permettant une rencontre féconde. Cette allégorie est d'ailleurs une constante dans la Bible, avec le prophète Osée qui parle de l'idolâtrie comme d'un adultère, s'attacher à autre chose qu'à son Dieu, et dans l'Évangile, Jean-Baptiste présente Jésus comme l'époux. Et il y a aussi tous ces récits de noces, de vierges sages ou folles attendant l'époux, et Paul continue dans la même veine en nous disant « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. »
Mais une interprétation n'empêche pas une autre. Et on peut néanmoins en effet se réjouir que dans tous ces textes parfois sévères de la Bible, il y en ait un qui soit si beau, si poétique, louant l'amour physique et la joie simple de la beauté. Cependant donc, si l'on veut aller plus loin, on peut faire une lecture théologique du Cantique des Cantiques. Cette lecture n'est même pas très difficile à faire, il suffit juste de penser au départ qu'il s'agit de Dieu et de nous. Nous pouvons alors trouver des images d'une grande richesse pour nourrir notre foi. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Si le bien-aimé est Dieu, alors la première chose le concernant, c'est sa voix, c'est-à-dire sa parole, et c'est par là qu'il se présente en premier à nous. Cela va dans le sens du prologue de Jean. Au commencement était la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, en elle était la vie. Cette primauté donnée à la parole dans la relation à Dieu montre qu'il ne faut pas privilégier l'affectif, comme on le fait trop souvent, en assimilant la foi aux sentiments religieux, mais comprendre que l'essentiel de Dieu dans sa relation à nous passe par la parole. Le culte réformé a toujours insisté là-dessus. Quand on veut rechercher sa présence, il ne s'agit pas de créer une ambiance, de faire du théâtral, de suggérer des sensations par la musique, l'art, l'architecture, mais de se centrer sur la parole. Là est l'essentiel. Et cela nous rappelle aussi que ce Dieu nous aide et nous fait vivre parce qu'il est information, conseil, vocation. Dieu nous donne la vie par l'Évangile qui est une bonne nouvelle, une parole qui informe notre existence et la transforme par le renouvellement de l'intelligence.
Il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Là aussi, le symbole est facile à trouver. Les montagnes, les collines peuvent faire penser au texte concernant Jean-Baptiste. Que toute colline soit abaissée, préparez le chemin du Seigneur. Dans ce cas, ce sont des amoncellements négatifs faisant obstacle entre nous et Dieu. L'Avent nous invite à déblayer le chemin, à ôter de nos vies tout ce qui peut nous éloigner ou nous couper de Dieu. Certes, il faut le faire. Mais ici, nous avons une expression plus radicale de la grâce. Dieu passe même par-dessus les obstacles. Et il peut venir à nous malgré notre bêtise, nos égoïsmes, indifférence et péchés de toutes sortes.
Ou alors, on peut voir ces montagnes comme positives. Parce que dans la Bible, la montagne, c'est celle de la révélation. Celle du buisson ardent, où Dieu se montre à Moïse. Celle du Sinaï, où a été donnée la loi, ou encore la colline de Sion sur laquelle a été construite le temple, lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Si Dieu saute sur ces collines, c'est qu'elles sont son point d'appui. C'est en montant là-haut que l'on peut avoir des chances de le rencontrer, en s'élevant dans sa parole, dans son culte. Mais en même temps, s'il saute par-dessus, c'est qu'il est aussi plus haut que tout cela. Dieu ne se trouve donc pas enfermé dans nos livres, dans nos doctrines, dans nos liturgies. Dieu saute au-dessus de tout cela et les dépasse. Nos doctrines, nos liturgies, donc, n'enferment pas Dieu. mais elles ne sont pas totalement inutiles pour autant. Si Dieu saute dessus, c'est qu'elles peuvent servir de tremplin, de base à partir desquelles nous devons nous sauter pour les dépasser et rencontrer Dieu qui est toujours plus loin.
Bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des serres. Comparer Dieu à deux petits animaux sauvages est une belle image. Dieu est sans doute comme un animal farouche, difficile à approcher et à observer. Pour voir un animal sauvage, il faut, comme pour rencontrer Dieu, du temps, de la patience, du silence, de l'immobilité. On ne voit aucun animal dans la forêt quand on tonitrue, quand on court dans tous les sens et qu'on s'agite. Il faut s'arrêter et juste ouvrir ses sens. Ensuite, la vision est fugace. On voit passer le petit animal, puis il disparaît. Pour beaucoup d'entre nous, la vision de Dieu est de cet ordre. On ne vit pas en permanence avec Dieu, comme avec un être proche. Mais c'est une présence insaisissable, qui se laisse voir par moments, dans des instants limités, mais ô combien précieux. Ces moments sont source d'une joie intense. Et ils suffisent pour savoir que dans cette nature apparemment vide, il y a de la vie, même si on ne la voit pas toujours. Ainsi, ces moments de foi nous disent que Dieu est là, qu'il est présent, et on le sait, même si à d'autres moments, il semble invisible.
Le voici. Il se tient derrière notre mur. Il regarde depuis les fenêtres. Il brille, fait fleurir depuis les treillis. C'est bien ainsi, même si on ne le voit pas. Dieu est là. Ce mur, c'est ce qui nous empêche de le voir. Le texte précise « notre mur ». Donc cet obstacle, il ne vient que de nous. C'est celui de notre manque d'intelligence et de foi. Mais malgré cela, nous savons que Dieu est là tout près. Et même, il profite de la moindre ouverture dans ce mur que nous dressons trop souvent autour de nous pour se montrer, pour donner de la lumière.
Le bien-aimé prend alors la parole et le texte dit précisément « Mon bien-aimé répond et il me dit ». Il y a une curiosité dans ce « il répond ». C'est curieux parce qu'avant, il n'y a aucune question qui soit posée. Cela fait que toutes les traductions enlèvent ce « répond » et mettent à la place un « il dit » qui est plus neutre. Mais pourtant, il y a là quelque chose de très important. C'est que Dieu peut nous répondre même quand nous ne savons pas clairement exprimer notre demande. Et puis, sans doute que sa parole est fondamentalement une réponse, pas forcément à nos questions formulées, mais une réponse à la question fondamentale de notre vie. Notre vie est une question en elle-même. On exprime cela habituellement sous cette forme usée mais juste « D'où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? » La parole de Dieu donne sens. Elle est la réponse à toutes nos questions, et à tous nos besoins les plus essentiels.
Lève-toi, pour toi, ma compagne, ma belle, et va vers toi. Et voici comment Dieu répond, c'est en invitant à se lever et à aller. L'Évangile invite toujours à avancer, à être dans la dynamique de l'être. Le célèbre « heureux des béatitudes » se traduit en fait dans le sens du verbe hébreu par « debout » et « en marche ». La solution, la réponse de notre vie est toujours en avant. La vie est un chemin, pas un état qu'il faudrait préserver. Jésus lui-même dira cela à maintes reprises, comme au paralytique, « lève-toi et marche », ou encore à la femme adultère, il la relève et lui dit « va ».
Ce « va » est d'ailleurs remarquable. Il a semblé tellement curieux aux traducteurs que tous le remplacent par « viens », en imaginant que pour une déclaration amoureuse, cela conviendrait mieux. Mais justement, Dieu ne cherche pas à être possessif. Il est comme le pédagogue qui invite son élève à aller vers une certaine autonomie. Cela est renforcé par la formulation hébraïque que là encore aucune traduction ne rend. Il n'est pas écrit simplement « lève-toi et va », mais « lève-toi pour toi et viens vers toi ». Il s'agit donc d'une démarche que l'on fait permettant de se relever soi-même et de se mettre en marche soi-même vers soi-même. Pour avancer, il faut déjà être bien soi-même, être reconstruit, fort, confiant. Et c'est en avançant qu'on peut se trouver soi-même. Cela fait aussi référence à l'appel d'Abraham où l'on retrouve la même formulation. « Lève-toi pour toi et va dans le pays que je t'indiquerai. » Parce qu'on ne se trouve soi-même, non pas en restant immobile ou en voulant rester attaché au passé, aux ancêtres et aux traditions, mais en avançant, en allant de l'avant avec la présence dynamique et dynamisante de Dieu.
Car voici l'hiver passé. La pluie a changé, elle est partie vers elle-même, dans le pays. Les fleurs paraissent. Si l'hiver est passé et que la pluie a cessé, c'est qu'on est au-delà du temps du déluge. Dieu n'est donc plus à voir comme un Dieu dur qui juge ou punit, mais au contraire, un Dieu qui aime, qui ne fait que le bien et veut faire alliance avec son fidèle en l'accompagnant. Et là, nous avons en plus une promesse, ce sont les fleurs. Une fleur, c'est en soi une promesse. Ce n'est pas encore le fruit qui pourrait nourrir, mais un point de départ pour que le fruit arrive. Il faudra encore de l'attente, du soin. Dieu ne donne donc pas tout fait. Il donne la base de tout ce qu'il nous fait et de tout ce qu'il nous faut. Et nous devons coopérer à son œuvre et veiller sur son don pour qu'il croisse et finalement donne son fruit.
Et que faire d'autre? Le temps du champ est arrivé. C'est peut-être comme cela que nous pouvons le mieux accueillir ce don de Dieu qui doit grandir. Chanter, psalmodier, c'est-à-dire rendre grâce. C'est en louant Dieu que nous pouvons le mieux grandir. Parce que louer, c'est se tourner vers la vie, c'est apprendre à voir le positif et vouloir en faire le fondement de sa vie. Et la voix de la tourterelle se fait écouter dans notre pays. Là encore, loin de l'image simplement poétique de l'amour terrestre, la tourterelle représente quelque chose de très important. Le mot tourterelle en français est un diminutif de tour, qui est précisément le mot hébreu pour désigner cet oiseau. Or, dans la langue de la Bible, tour ou tor donne au féminin Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu, c'est la loi. Donc la tourterelle, c'est la petite Torah. Et voilà ce qui se fait entendre. C'est la parole de Dieu, cette parole de vie qui permet de se mettre debout et en marche. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre cette Torah, comme mettent toutes nos traductions, mais de l'écouter. Là encore, les traductions sont malhonnêtes et ne traduisent pas le texte et font disparaître l'essentiel. Parce qu'écouter, ce n'est pas seulement entendre. Et c'est précisément ce qui nous est demandé dans le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Nous avons l'essentiel, la louange et l'écoute de la parole. et c'est d'ailleurs tout le sens du culte dans la tradition réformée.
Morceaux musicaux que nous vous faisons découvrir, nous avons trouvé par hasard à la station Châtelet dans le métro. Ce sont des musiciens ukrainiens de Lviv et c'est de la musique traditionnelle tzigane et yiddish. J'espère que cela vous plaît autant qu'à nous. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et va vers toi. Voici pour la deuxième fois l'appel que nous avions déjà vu de se lever et de se mettre en marche. S'il faut qu'il soit dit deux fois, c'est sans doute qu'il n'est pas si facile à accomplir. Il faut persévérer, réessayer et ne jamais craindre l'échec. Dieu le sait bien, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas su une fois se remettre debout ou se mettre en marche qu'il faut abandonner. Mais on pourrait aussi dire que ce deuxième appel complète le premier, parce qu'il faut sans cesse continuer à se lever, à se remettre en marche. Et par ailleurs, ce second appel fait évoluer la demande. Elle n'est pas exactement formulée de la même manière. Cette fois, le premier « pour toi » a une toute petite variante que bien des exégètes ont pris pour une erreur. Mais ce n'en est pas une. Le « pour toi » devient aussi un autre « va », comme celui de la fin de sa phrase. Il s'agit donc de se lever aussi et de se mettre en marche mais moins vers soi-même et plus dans la dynamique. Cette fois, l'appel est plus tourné vers l'action et vers les autres, en s'oubliant soi-même. C'est essentiel, mais peut-être n'est-ce possible qu'après que le premier appel à la réalisation de soi ait été entendu.
Ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret de la marche, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ton visage est charmant. Voilà une curieuse façon d'appeler sa bien-aimée, ma colombe. Certes, cela peut ressembler à un terme affectueux, mais théologiquement, c'est beaucoup plus que cela. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Cet esprit dont la Bible nous dit qu'il plane à la surface des eaux. L'image de cette présence de Dieu qui descend du ciel vers la terre. Mais comment l'homme peut-il être identifié au Saint-Esprit ? Pour le comprendre, il faut revenir à une première affirmation au début du Cantique des Cantiques, quand Dieu dit de l'humain « tes yeux sont des colombes ». Là, on peut comprendre ce que Dieu aime chez l'homme. C'est quand il parvient à regarder le monde avec le regard du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec bienveillance, amour et grâce, avec une manière qui est non pas de juger, mais de voir comment il sera possible de donner de la vie à ce qui est là. Or, vraiment, le regard dirige notre vie. Nous allons toujours d'une manière ou d'une autre vers là où nous regardons. Et cela est vrai dans tous les sports.
Et cela ne peut être que dans le creux du rocher. Parce que le rocher, c'est Dieu, et le croyant ne peut accomplir sa mission que s'il se trouve aidé, soutenu et protégé par Dieu. Il faut se blottir en Dieu, se mettre en lui et aller le trouver dans le secret. Jésus aussi l'a dit, « Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ce Dieu secret, c'est le Dieu de l'intimité, celui qui nous parle cœur à cœur et qui nous dit son secret par la révélation. Et ainsi, on peut aller de marche en marche, c'est-à-dire monter petit à petit pour s'élever par cette présence et cette parole qui nous porte.
Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes et nos vignes en fleurs. Cette demande paraît tout à fait absurde au sens littéral, parce que les renards sont carnivores et ils ne mangent pas les vignes, ni les raisins, ni les fleurs. Elle ne peut avoir de sens que symboliquement. Parce que le renard, c'est un destructeur, un ravageur. Les renards représentent ici tout ce qui peut nuire à cette vigne du Seigneur que nous sommes, en ce que nous sommes appelés à produire du bon fruit pour Dieu. Du raisin permettant de devenir du vin, apportant la joie dans le monde. Les renards, ce sont donc tout ce qui peut nuire à notre foi et à notre fécondité. Et le Cantique des Cantiques ici appelle à une action concrète de lutter contre le mal et de tout faire pour le chasser de notre vie.
Et nous en arrivons à la conclusion. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys, jusqu'à ce que souffle le jour et que les ombres s'enfuient. Nous avons là une formule parfaitement symétrique, très extraordinaire, parce que Dieu est présenté au même niveau que l'homme. Ce n'est pas évident, même dans nos mariages humains, pendant des siècles, on demandait aux époux des engagements différents, à l'homme de protéger sa femme et à la femme de seconder son mari. Aujourd'hui, nous avons des formules symétriques, et c'est la moindre des choses. Il peut y avoir des rôles complémentaires, mais devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme.
Et Dieu, lui, par grâce, nous considère comme ses vis-à-vis. Autrement dit, il fait alliance avec nous. Or, l'alliance, ce n'est pas écraser l'autre, ni l'annihiler. Ce n'est pas l'asservir, mais le considérer comme un égal. Dieu nous fait cet honneur suprême de nous considérer comme tels. Et il nous fait paître. Il est donc comme notre bon berger. Et on peut se référer au psaume 23. Il s'occupe de nous, nous soigne, nous montre le chemin, et ce, parmi les lys, c'est-à-dire parmi les autres croyants. Tout cela, dit le cantique, jusqu'à ce que souffle le jour. Or, le souffle, c'est l'esprit. C'est le même mot en hébreu comme en grec. Et le jour, c'est la lumière. Nous voyons donc le but ultime de tout cela. Ce que Dieu finalement peut nous offrir, le Saint-Esprit et la lumière, pour que les ombres s'enfuient et que le mal recule. Autrement dit, nous avons dans ce dernier verset un résumé très remarquable de la vie du croyant avec Dieu. Être en union avec Dieu, être en communion avec les autres croyants sous la houlette de Dieu et travailler à la lumière dans le monde. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres, et qu'on serait très heureux de vous y accueillir. Et je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.